Le livre « Mégantique » de Anne-Marie Saint-Cerny, qui paraîtra sous peu, démontre que la tragédie ferroviaire pourrait se reproduire. Elle nous dévoile pourquoi.
Quand on prononce le nom « Mégantique », tout de suite, cette horrible tragédie nous arrive dans les souvenirs. Mais c'est important de regarder un peu quel était le contexte préalable à cette tragédie de Mégantique. Qu'est-ce qui s'est passé, évidemment, dans les heures qui ont précédé comme telles, lorsque le train, cette bombe de pétrole, a foncé vers la ville, et aussi qu'est-ce qu'il y a eu comme suivi, comme conséquence. Anne-Marie Saint-Cerny est avec nous. C'est l'auteur du livre « Mégantique », qui est militante de terrain depuis de nombreuses années. Madame Saint-Cerny, bonjour.
Bonjour, monsieur. Merci de me recevoir.
Ça fait plaisir, parce que j'ai appris pas mal de choses en lisant votre livre. Et je vais y aller comme en trois temps. Je voudrais qu'on explique le contexte avant Mégantique.
Oui.
Ce que vous décrivez dans le livre, c'est une industrie ferroviaire avec un contrôle quasi total de l'entreprise privée. Les priorités, autant les grands joueurs que les plus petits joueurs, là, c'est ce qui façonne l'industrie au Canada. Le gouvernement fédéral, entre autres, est là, observe, soutient, mais pas tellement interventionniste.
Non. Moi, je suis arrivée cinq jours après la nuit zéro et c'était imaginaire, mais je sentais encore l'odeur de chair calcinée. J'étais au milieu de citoyens hébétés. Et tous, on s'est retournés vers les autorités et on a voulu savoir, mais qu'est-ce qui s'était passé dans le monde au Québec? Là, on n'est pas dans un endroit éloigné. Et la seule réponse qu'on n'avait jamais, c'est il y avait un gars tout seul en haut avec un train de 72 wagons de pétrole, puis il a pas mis assez de freins. Et oui, mais encore... comment ça qu'il n'a pas mis assez de freins? Comment ça qu'un gars tout seul peut rouler un train d'explosifs comme ça, 8 millions de dollars d'explosifs tout seul, sur des rails tellement brisés qu'on les voyait plus à Mégantique et d'ailleurs un peu partout au Québec et au Canada, parce qu'il y a trop de mauvaises herbes. Qu'est-ce qui a permis ça? Alors, quand je suis revenue, je me suis dit, un vieux réflexe de militante, je me suis dit, mais c'est quoi le MMA, CP, qui a permis ça? Et la première chose que j'ai googlé, parce que j'ai vite compris que MMA, c'était un sous-fif, un minable de bout de ligne, c'était le CP qui était le grand opérateur de tout ça. Et quand j'ai googlé à qui appartenait le CP, j'ai vu apparaître la face aux cheveux d'argent d'un homme, William Ackman, un Trump, littéralement un Trump, un milliardaire, qui avait pris le contrôle du CP, a mis ses hommes et a réussi à faire du rendement, le rendement aux actionnaires, la seule et unique contrainte du CP. Donc, ils ont mis tout le monde dehors. Ils ont mis sur les rails des trains lugubres. Là, il y a eu 28 % d'augmentation de pétrole. Il y a eu un
dîner. Le marché du pétrole de schiste, pétrole américain, là, était l'espèce de Klondike qui était vu par
le Klondike, exactement. Alors, eux, ils avaient le seul accès direct au Dakota du Nord, le CP. Donc, ils ont rentabilisé ça avec ces gros convois-là lugubres. Ils savaient parfaitement que les rails tenaient pas. Ils le savaient. À la suite d'événements loufoques, un dîner dans un des plus chics restaurants de New York en juin 2011, les décisions qui sont prises là, où Ackman a éventuellement fait un milliard de profits en moins d'un an, ont mené directement à la tragédie de Mégantique. Et toute cette rapacité de profit à tout prix, et peu importe la sécurité, parce qu'ils ont mis tout le monde dehors et tout, ça, c'est la première partie. Mais là, tu te tournes de bord et tu te dis, oui, mais d'accord, on connaît les compagnies privées, on sait que c'est là pour faire du profit, à fond la caisse, là, mais
ça,
on a
ça veut
des règles.
Ça veut dire réduire le nombre d'employés, pas faire les investissements nécessaires pour la remise à niveau des voies, par exemple. Si c'est, comme vous dites dans le cas de Mégantique, un être humain seul à bord du train, c'est... comme on dit, c'est empochons le maximum de l'industrie pétrolière puis faisons en sorte que ça nous coûte le moins cher possible.
Exactement. Ces trains-là là, qui transportaient le poids, il y avait 4-5 personnes quand on était jeunes sur ces trains-là. Maintenant, il y a 8 millions d'explosifs et il y a un gars tout seul en haut de la pente qui doit décider combien de freins il va mettre. Et là, on arrive à la partie 2. On se dit, mais on est protégé parce qu'on a des règles, des règlements, des lois, on a un ministre, on a... Et la première chose qu'on voit, c'est que Tom Harding, en haut la nuit, avec une locomotive qui n'arrivait pas à faire fonctionner correctement, avait comme seule règle de mettre un nombre suffisant de freins. c'est quoi un nombre suffisant de freins? C'est lui qui devait le décider. Et je peux vous dire qu'au au procès, moi, j'ai entendu 8, 10, 15, 20 et le BST a dit 26. Donc, c'est complètement aléatoire. Et c'est là que commence la deuxième partie de mes découvertes où je suis effarée et où j'ai découvert quelque chose que j'ai jamais vu dans aucune autre industrie, même à ces cow-boys. C'est que, littéralement, le Transport Canada l'admet même sur son site web, on réglemente avec des lois l'industrie maritime, l'industrie aérienne, et dans le cas de l'industrie ferroviaire, on facilite l'adoption de règles écrites par l'industrie elle-même. Et à ma connaissance, c'est le seul endroit, c'est issu directement d'un état féodal.
Vous citez à plusieurs reprises soit des fonctionnaires, même le ministre des Transports, Marc Garneau, à deux ou trois occasions dans le livre, on le sent soumis, ou en tout cas, il abdique clairement, devant des évidences, là, c'est-à-dire le manque de contrôleurs, le manque d'inspecteurs, des conflits d'intérêts, des rapports qui sont flous, des recommandations ou en fait des constats qui pourraient être intéressants, qui sont perdus dans des pages. Que, autrement dit, là, on nous présente des résultats d'enquête plus que limité, là. Il n'y a pas eu de commission publique, il n'y a rien eu de ça.
Non, il n'y a rien eu de ça. Il y a une dame, une jeune maman qui a perdu son fils de 19 ans dans la tragédie et qui a dit, je comprends pas comment ça marche parce que je laisse mes clés de char dans mon auto et puis j'ai une contravention, puis on peut laisser un train en marche tout seul en haut d'une pente plein de pétrole. Et elle a parfaitement dit ce qu'il y a à dire. Et la réponse à ça, le ministre Garneau la donne sans arrêt. Il l'a encore répété à Mégantic lorsqu'il a annoncé la voie de contournement. J'ai pas de pouvoir là-dessus. Devant moi, on lui a dit, mais vous êtes pas inconfortable que les rails sont complètement brisés puis que le propane passe. J'ai pas de pouvoir là-dessus. C'est les compagnies qui décident. Et c'est là qu'on réalise que probablement c'est la seule place dans la réglementation. Les compagnies décident des règles. C'est pas des règlements, c'est des règles. Ils les suivent ou ils les suivent pas. Et cerise sur le Sunday, c'est eux qui s'auto-surveillent. Il y a, à l'heure actuelle, parce qu'ils ont fait une grosse augmentation de 40% dans les deux dernières années, 140 inspecteurs pour 50 000 km de rail au Canada. Aujourd'hui, en 2018, on peut stationner encore un train sans surveillance, en haut de Mégantic, sur la voie principale, alors que le BST dit que c'est terrible.
Mais on savait tout ça dans le sens où, on savait que d'abord, les voies n'étaient pas conçues pour le transport de tels produits. Ça a été conçu à une autre époque. On savait que les wagons utilisés représentaient un danger. On a décidé de les retirer, mais ça va prendre, je pense, 25 ans avant que ça quitte vraiment... On savait tout ça, là, depuis le début, qu'il y avait ce potentiel. Et ce que le ministre trouve à dire, c'est que j'ai pas le pouvoir d'intervenir puis régler ça.
Tout ce qu'il répond, exactement. Il répond, j'ai pas le pouvoir et ce sont des propriétés privées. C'est aberrant parce qu'il y a absolument personne dans ce contexte-là qui se soucie de la sécurité ferroviaire. La seule chose qu'il a faite, c'est qu'il a lancé le comité de revision de la loi sur la sécurité ferroviaire, qui vient de déposer son rapport il y a une semaine, et qui dit essentiellement qu'il faut rendre nos chemins de fer plus concurrentiels encore, et qui dit quelques paragraphes seulement sur Mégantic, juste pour dire que les gens n'ont plus confiance dans l'industrie ferroviaire, puis il faudrait faire un plan de communication novateur et une plateforme innovatrice. J'ai pas besoin de vous dire que c'est un plan de relations publiques. C'est tellement secret et il y a littéralement aucune gouvernance, aucun ministre qui se tient devant les compagnies ferroviaires. Et ça, les gens de Transport Canada, sous couvert anonyme, ont pas arrêté de me le dire. C'est l'État dans l'État. Ils décident des règles. S'ils veulent pas mettre les freins automatiques, ce qui aurait sauvé les 47 filles, ils vont pas les mettre et c'est pas dans la loi encore.
Ça veut dire que, exemple, vous parliez de cet homme solo qui est dans le train.
Ouais.
Il y a rien qui permet au ministre de fixer des règles. C'est-à-dire que c'est l'industrie qui décide et quand on applique la règle « un homme par train », c'est ça qui va s'appliquer.
La seule contrainte qu'ils ont, c'est d'informer le ministre.
Mais ça.
D'informer le ministre, mais ça, exactement. Mais là, je voudrais faire un aparté quand même. Effectivement, dans les règles, dans la façon de fonctionner, dans leur tête, ils n'ont pas le pouvoir. Mais c'est là, c'est la raison pour laquelle j'ai écrit le livre. C'est que je veux que ça se sache. Parce que voyons donc qu'on n'a pas le pouvoir. Ce sont nos élus. C'est eux qui sont responsables de la sécurité. Donc, c'est une façon, et il y a beaucoup de gens qui commencent à se poser la question, forcément, arrêtez de nous dire, et surtout à Mégantic, arrêtez de nous dire vous n'avez pas le pouvoir. On vous le donne pour 4 ans.
Est-ce que, pour vous les accuser dans cette affaire-là, on a été comme des espèces de boucs émissaires, c'est-à-dire qu'on prend les gens qui étaient sur place ou qui avaient un rôle précis à jouer ce soir-là, puis on les pousse vers la justice, alors que finalement, ça s'est comme préparé bien longtemps à l'avance.
C'était préparé depuis le début, tous les renseignements.
Tragédie prévisible.
Ah, c'était une tragédie annoncée et qui va se répéter. À Amqui, il y a une pente, il y a une courbe, puis dans le milieu de la courbe d'Amqui, il y a la brasserie, comme le Musique Café. C'est clair que ça va se répéter. Il n'y a strictement rien de changé. Quant aux accusés, c'est les boucs émissaires. Et ça s'est décidé dès le début parce qu'ils ont restreint l'enquête de la SQ. Ils ont fabriqué, littéralement fabriqué des boucs émissaires. Quand on envoie 9 hommes armés, le SWAT team, arrêter un gars qui est après peinturer son bateau avec son fils dans sa cour, alors que ce même gars-là, Tom Harding, leur a dit et son avocat a confirmé, si vous avez besoin de moi, je suis là, puis il s'est toujours présenté. Ils ont fabriqué des boucs émissaires parce qu'ils avaient besoin de coupables. Et je pense qu'à mon avis, ça a été leur erreur, parce que je pense que justement, la population, même à Mégantic, n'a pas acheté la fabrication. Les gens ne sont pas fous. Ils savent très bien que même si les 3 gars avaient été en prison, le train va recontinuer à dérailler. Les trains de propane sont encore dans Mégantic. Il se fait encore du triage sans frein à main en haut de la côte.
Il y a encore des citoyens qui sont en mesure de voir les excès de vitesse des trains, parce que plus lourd, plus vite, une seule personne, c'est la façon d'opérer.
C'est la façon d'opérer, et même à 2 personnes, on a changé complètement. Là, c'est plus le train ami qui transportait le bois, puis la nourriture, puis les autos. C'est plus ça. Là, c'est des bombes qui se promènent. Et je vous signale aussi que ça touche beaucoup d'aspects. Le pétrole était même pas une matière identifiée dangereuse quand ça explosait à Mégantic. Là, ils l'ont mis. Parfait. Mais s'il n'y avait même pas mis le pétrole parce que c'était peut-être trop important au niveau économique, quel autre acide explosif se promène qui est pas sur... Donc, si c'est pas sur la liste des produits dangereux, ça peut encore se promener avec une seule personne puis sans wagon en arrière.
Madame Saint-Cerny, merci beaucoup d'être venue ce matin.
Merci infiniment.
J'invite les gens à lire votre bouquin, vous allez en apprendre pas mal. Ça s'appelle Mégantic, publié aux éditions Polémos. Préface d'André Noël, d'ailleurs. Ça apparaît le 19 juin prochain. Donc, Mégantic.
Avenir, une ville paye ses citoyens pour pédaler.